Conan Doyle, le pot de caviar. L'on en était au quatrième jour du siège. Munitions et provisions touchaient à leur fin. Quand l'insurrection des boxeurs, comme un incendie dans les herbes sèches, avait flambé tout à coup au nord de la Chine. Les quelques Européens, disséminés dans les provinces lointaines, avaient rallié le premier poste de défense. Et ils y défendaient chèrement leur vie, en attendant d'être secourus ou de ne pas l'être. Dans ce dernier cas, autant ne rien dire du sort qu'on leur réservait. Et dans le premier, on pourrait, au visage qu'ils rapporteraient chez les hommes, connaître qu'ils avaient vu de près un de ces morts dont la pensée ne fuit jamais, voire même en rêve. Ichao n'était qu'à 50 miles de la côte et une escadre européenne croisait dans le golfe de Liangtung. Aussi, la pauvre petite garnison, composée de chrétiens indigènes et d'ouvriers du chemin de fer, sous les ordres d'un officier allemand qu'assistaient quelques civils européens, tenait-elle vaillamment, convaincue que de petites collines de l'Est, le secours était bientôt descendre. On apercevait le mur du haut de ces collines, sur la mer, il y avait des compatriotes. Posés aux meurtrières, sous l'abri croulant des murs de briques qui bordaient le petit quartier européen, ces braves tiraillaient avec ardeur, non sans efficacité, contre les lignes des boxeurs, dont les retranchements de pierres sèches faisaient des progrès rapides. Dans un jour ou deux, on serait certainement à bout de ressources. Et non moins certainement, dans un jour ou deux, on serait délivré. Que le secours dût arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard, personne ne se risquait à prévoir qu'il ne fût pas arrivé en temps utile. Et jusqu'au mardi soir, il n'y eut pas un mot de découragement. À la vérité, le mercredi, la foi robuste des défenseurs, en ce qui leur venait par-delà des collines, avait un temps soit peu faibli. Les pentes se déroulaient rudes et bêtes, cependant que les lignes d'investissement poussaient toujours plus franches, et si proches que l'on distinguait dans le moindre détail de leurs traits, les hommes humbles, horribles faces qui, par-dessus les amas de pierre, vomissaient de temps en temps des imprécations. On entendait pourtant moins de cris depuis que le jeune Aïsili du service diplomatique, avec sa jolie petite carabine de chasse du calibre 305, s'embusquait dans le clocher trapu de l'église, où il passait les jours à démolir cette engeance. Mais des retranchements silencieux sont encore plus impressionnants, et régulièrement, irrésistiblement, inéluctablement, les lignes de pierre sèche et de briques se resserraient. Il suffirait bientôt d'un bond pour jeter sur les frêles travaux de la défense de ces guerriers frénétiques. La situation apparaissait donc très noire dans la soirée du mercredi. Le colonel Dressler, l'ancien soldat d'infanterie allemande, gardait une figure imperturbable, mais il se sentait du plomb au cœur. Railson, du chemin de fer, passa une moitié de la nuit à écrire des lettres d'adieu. Le professeur Mertel, le vieil entomologiste, se renfermait plus que jamais dans un silence pensif et morose. Ainsi, l'élève est un peu perdu de sa belle assurance. Tout compte fait, c'était les dames. Mistress Sinclair, la grande malade, garde-malade de la mission écossaise. Monsieur Mrs. Patterson et sa fille, la jolie Miss Jessie, qui montraient le plus de quiétude. Le père Pierre, de la mission française, gardait lui aussi tout son sang-froid, ce qui n'avait rien que de naturel pour un homme habitué à considérer le martyr comme une gloire. Les boxeurs qui, de l'autre côté du mur, réclamaient avidement son sang, je le trouve moins que la société forcée du pasteur de l'église presbytérienne. Monsieur Plasterson, à qui depuis 10 ans il disputait opiniâtrement les âmes des indigènes. Et quand ils se croisaient dans les couloirs, c'était comme se croisent chien et chat. Et ils se surveillaient outrageusement, crainte que dans les tranchées, l'un ne dérobât de l'autre quelqu'une de ses ouailles en lui chuchotant des paroles d'hérésie. La nuit du mercredi s'écoula sans incident. Le jeudi, tout s'éclaircit de nouveau. Svitaï Silé, qui montait dans la tour de l'horloge, perçut le premier au loin le grondement du canon. Dressler l'entendit aussi. Au bout d'un instant, ils entendaient tous la puissante voix de bronze qui les appelait, qui les invitait à se réjouir, puisque les secours venaient. Donc, les compagnies de débarquement étaient en route. Elles n'arriveraient pas trop tôt d'une heure. Oh, les cartouches allaient manquer. Les rations de vivres allaient encore se réduire. Mais qu'importait cela maintenant qu'on avait la certitude de la délivrance? Il n'y aurait pas d'attaque dans la journée, car on voyait les boxeurs refiler en masse vers la fusillade fort lointaine. Et les longues lignes qu'ils occupaient restaient silencieuses et désertes. Aussi la table réunit-elle à déjeuner une assemblée heureuse et loquace, débordant de cette joie de vivre qui jaillit plus éclatante sous l'ombre de la mort. Le bar de caviar! S'écria Tilly. Voyons, professeur, allez-y du baril de caviar. Posen! Oui, grommela le vieux Nesler, il est temps que nous l'ayons, ce fameux baril. Et les dames s'en mêlèrent. Et de tous les points de la longue table, mal garnie, on réclamait le caviar. L'heure semblait mal indiquée pour une exigence de cette nature. Elle avait pourtant sa raison, et bien simple. Le professeur Mercer, le vieil entomologiste californien, avait un jour ou deux avant le soulèvement reçu un baril de caviar dans un envoi de marchandises venant de San Francisco. Et lors du rationnement général des vivres, on n'en avait accepté que ce mets de choix avec 3 flacons de Lacryma Christi de même provenance. Et d'un accord unanime, on avait mis le tout en réserve pour fêter le jour où l'on serait enfin venu la fin du danger. Le bruit du canon sauveur continuait d'arriver aux oreilles des convives. Cette musique, à le déjeuner, leur était plus douce que celle que leur eût fournie le restaurant le plus élégant de Londres. Avant la nuit, ils seraient libres. Alors pourquoi leur pain rassis n'aurait-il pas les honneurs de ce caviar précieux? Mais le professeur hocha sa vieille tête à boucle et sourit de son impénétrable sourire. « Attendons plutôt, dit-il. » La compagnie se récria. « Mais attendre, à quoi bon attendre ? Les heures ont encore fort à faire pour arriver. » « Mais ils sont ici au plus tard pour le dîner, » dit Ryson du chemin de fer, qui était un homme vif, à figure d'oiseau, avec des yeux brillants et un long nez en pointe. « Ils peuvent pas maintenant être à plus de 10 miles, eh bien 7 heures du soir, 10 000 seulement par heure, ça fait le compte. » « Ah, il y a une bataille engagée sur ce chemin, » objecta le colonel. « Vous accorderez bien 1 heure ou 2 pour la bataille. »« Mais pas 1 demi-heure, protesta Silly. Ils passeront comme s'il n'y avait personne. Que peuvent des coquins avec leurs mousquets à mèche et leurs sabres contre des armes modernes ?» Oh, tout dépend de qui commande la colonne, opina Dessler. Si par bonheur, c'est un officier allemand. Ah, ma fortune pour un Anglais, cria Harrison. Oh, le commandant français a une réputation d'excellent tacticien, dit le père Pierre. Mais je ne vois pas que ceci ait la moindre importance, trancha l'exubérant Holstein. « Monsieur Bossert et Monsieur Maxime travailleront pour nous. Et pour nous, un chef, ce sera toujours un chef d'affaires. Je dis qu'on on vous la rossera, cette canaille, et qu'on lui passera par-dessus. Professeur, allez, le baril de caviar. » Mais le vieux savant ne faisait toujours pas convaincre. « Après tout, » intervint M. Patterson avec son accent écossais, « le principe, ce serait une marque de courtoisie envers les officiers, nos libérateurs et nos hôtes, que de leur offrir une nourriture récente. Bon, je partage l'avis du professeur. Gardons le caviar pour le dîner. L'argument allait émouvoir chez tout le monde. » Le sentiment de l'hospitalité, puis il y avait quelque chose de plaisamment chevaleresque dans l'idée de réserver cette petite gâterie pour en relever le menu des libérateurs. Alors on ne parla plus du caviar. « Au fait, professeur, » reprit M. Patterson, « j'entendais dire tout à l'heure que « c'était la seconde fois que vous subissiez un pareil siège. Vous nous intéresseriez tous, j'en suis sûr, en nous donnant quelques détails sur le premier. » Le visage du vieillard se renfrogna. « Oh, c'était, » fit-il, « en 1882 à Suntung, dans le sud de la Chine. »« Ah, il faut, » dit le missionnaire, « une extraordinaire coïncidence. » pour que vous ayez connu déjà une situation analogue. Et comment vous secourut-on à Tiongnyu ? On ne nous secourut pas. Quoi, la place tomba ? Eh, où elle tomba ? Mais cependant, vous vivez encore. Je suis médecin, en même temps qu'entomologiste. L'ennemi avait les blessés, alors il m'épargna. Et les autres ? « Assez, assez !» cria le petit prêtre français, la main tendue dans un geste de protestation. « Qu'il y avait 20 ans qu'il était en Chine. » Le professeur s'était tu. Mais derrière la tristesse de ses prunelles grises, une vision d'horreur se blottissait. Les dames en devinrent pâles. « Désolé, » dit le missionnaire, « je vois que j'ai touché à un sujet pénible. Je n'aurais pas dû vous questionner ainsi. »« Oui, » répondit le professeur lentement, « il n'est pas sage de ne pas questionner, et préférable de ne point parler de ces choses. Mais je vois bien que le canon se rapproche. Il ne pouvait à cet égard y avoir aucun doute. Après une interruption, le grondement avait repris, et sur ce thème grave courait l'accompagnement avide de la fusillade. Cela paraissait venir du versant opposé de la première colline. On repoussa les chaises, on s'élança vers les murs, et à pas étouffés, des serviteurs entrèrent, firent disparaître les maigres reliefs du repas. Et le professeur resta là, pendant, sur ses deux mains, sa tête lourde et grisonnante, gardant au fond des yeux le même regard de pensive horreur. Il y a des revenants qui sommeillent pendant des années, et les faire rentrer dans le repos, quand une fois ils ne se sont éveillés, n'est pas chose facile. La canonnade avait cessé, mais le professeur ne s'en avisait pas, perdu qu'il était dans le souvenir unique, terrible et suprême de sa vie. Le colonel survint, qu'il arracha à ses pensées. Un sourire complaisant épanouissait cette large figure germanique. « Le geyser sera content, dit-il en se frottant les mains. Au bout de tout ceci, je vois à coup sûr une médaille. Défense des Slaw contre les boxeurs par le colonel Dressler, ancien major du 114e régiment d'infanterie de Hanovre. Magnifique résistant de la garnison contre toute soutenance du succès. Voilà ce que on lira certainement dans les gazettes bernoises. Alors vous nous jugez sauvés ? Demanda le vieillard, sans aucune émotion dans la voix. Le colonel eut un sourire. Savez-vous, professeur, dit-il, que je vous ai vu plus agité ce matin. Vous avez réintégré dans votre boîte l'épi douce Magellan 6. Oui, je l'avais cru en sûreté dans ma boîte, répondit l'entomologiste. Mais j'ai vu dans ma vie des retours de sort bien étranges. Et je ne m'attriste ni ne me réjouis désormais qu'à bon escient. Dites-moi les nouvelles. Eh bien, dit le colonel, allumant sa pipe, en allongeant sur une chaise de bambou ses jambes guettrées. Je jure, sur la réputation militaire, que tout va bien. Les nôtres sont des progrès rapides. La cessation du feu marque la fin de la résistance. Nous les verrons dans une heure au sommet de ces croupes. Ezidi, par trois coups de feu, nous préviendra du haut du clocher. Nous ferons alors une petite sortie pour notre satisfaction personnelle. Et vous attendez le signal? Je l'attends, oui. J'ai eu l'idée de venir jusqu'à vous pour vous tenir compagnie, car je voudrais vous demander quelque chose.
Quoi donc?
Vous nous parliez tout à l'heure de l'autre siège, le siège de Sung Tun. Bien là, au point de vue professionnel, une question qui m'intéresse. Et à présent que nous voilà débarrassés des Pékins et des dames, j'espère qu'il est dans votre sans inconvénient que vous nous en causions. Le sujet n'a rien d'agréable. Bon, j'en conviens sans peine, Mein Gott. Ce fut un drame. Mais vous avez vu la façon dont j'ai conduit la défense. Trouvez-vous qu'elle ait été prudente, habile et digne des traditions de l'armée allemande? Bon, je pense que vous n'auriez pas pu faire davantage. Merci. Mais croyez-vous qu'on défendit aussi bien notre place? Une comparaison de ce genre offre pour moi l'intérêt le plus vif. Croyez-vous qu'on pût la sauver? Non, tout est possible. Tout le possible fut fait, sauf pourtant une chose. Ah, il y a eu une omission laquelle? Personne n'aurait dû pouvoir tomber vivant aux mains des Chinois. Le colonel tendit sa vaste main rouge, dont il enveloppa les doigts bleus et nerveux du professeur. Vous avez raison, mille fois raison. Mais supposez-vous que je n'ai pas changé, moi. Personnellement, je saurais mourir en combattant. De même Raison, de même Aristide. J'aurais dit un mot, affaire entendue. Quant aux autres, j'en ai causé avec eux, mais que faire? Il y a le prêtre, le missionnaire écossais et les femmes. Ils se laisseraient prendre vivants? Oh, ils se refuseraient au moyen de l'éviter. Ils n'attendraient pas à leur vie, question de conscience. Bien entendu, le danger n'existe plus. Oh, rien ne nous autorise à envisager une éventualité aussi terrible. Mais enfin, à ma place, que feriez-vous, le cas échéant? Ben, je tuerais tout le monde. Mein Gott! Assassiner ces gens! Ben, je le ferais par pitié pour eux-mêmes. J'ai passé par là, monsieur. J'ai vu le supplice des œufs brûlants, j'ai vu le supplice de l'eau bouillante, j'ai vu les femmes. Oh mon Dieu, je me demande comment j'ai jamais retrouvé le sommeil. Les affres du souvenir torturaient ce visage habituellement impassible. On m'avait attaché à un poteau avec des épines sous les paupières pour m'obliger à les tenir ouvertes. Mais ce que je endurait, me cuisait bien moins que les reproches que je m'adressais au fond de moi-même, en pensant qu'avec quelques tablettes insipides, j'aurais pu à la dernière minute arracher les victimes aux tortionnaires. Un assassinat, non. Oh, je suis prêt à comparaître devant la justice divine pour y répondre de 1 000 assassinats pareils. Un péché, non. Mais l'un de ces actes capables d'effacer de l'âme la souillure du vrai péché. Si, sachant ce que je sais, j'avais manqué d'agir en conséquence, il n'y aurait pas eu d'un enfer assez profond pour recevoir mon âme coupable et lâche. Le colonel se leva et de nouveau sa main étreignit la main du professeur. Vous parlez de bon sens, dit-il. Vous êtes un homme énergique et brave, et qui se connaît. Oui, parbleu, vous m'avez été d'un grand secours, et si l'événement avait pris un tour fâcheux, bien souvent, le matin, aux premières heures, alors qu'il fallait encore nuit noire, je réfléchissais à tout cela, je m'interrogeais. Et je ne savais que me répondre. Mais nous aurions dû déjà entendre le signal d'un signe. Oh, il faut que j'aille voir. Le vieux savant se retrouva seul avec ses pensées. À la fin, le canon des libérateurs et le signal de leur approche ne sonnant toujours pas à ses oreilles, il se leva pour aller aux informations sur les remparts, mais la porte s'ouvrit et le colonel Dressler entra, chancelant, pâle comme un spectre, hors d'haleine comme un homme épuisé par la course. Il y avait du brandy sur un guéridon. Il en avala d'un trait un plein verre. Puis il s'affaissa sur le siège. Eh bien, s'enquit le professeur froidement, il n'arrive pas? Non. Ils ne peuvent pas arriver. Un silence suivit qui dura 1 minute ou davantage. Les deux hommes se regardaient fixement, déconcertés. Et les autres savent? Non, personne que moi ne sait rien. Mais comment avez-vous appris? Bien, j'étais sous la mine près de la porte, tiens, la poterne, la petite porte en bois qui ouvre sur le jardin des roses. Je vis quelque chose ramper dans la broussaille. On frappe à la porte. C'était un tartare chrétien, mortellement blessé à coups de sabre. Il venait de la bataille. Le commodore Wenham anglais nous l'envoyait. La colonne de secours était en échec, manquant presque de munitions. Elle se retranchait le temps de faire ravitailler par un navire. Les jours se passeraient avant que l'on pût arriver. C'était tout, my God. C'était le reste. Les sourcils broussailleux du professeur s'abaissèrent. Où est l'homme? Demanda-t-il. L'homme est mort, mort d'hémorragie. Son corps est couché près de la poterne. Et personne ne l'a vu. Pour ainsi dire, personne. Ce qui signifie qu'on l'a vu. Bunsley, il aura sans doute aperçu du clocher de l'église. Il doit savoir que j'ai des nouvelles. Il désirera les connaître. Si je lui en fais part, il faut que j'en fasse part à tout le monde. Et combien pouvons-nous soutenir encore? Ouf, une heure ou deux, tout au plus. Sans aucun doute. Oh, ce bon honneur de soldat. C'est donc la chute. Oui, la chute. Il ne reste aucun espoir. Aucun. De nouveau, la porte s'ouvrit. John Isley se précipita dans la chambre. Derrière lui se pressaient Rayson, Patterson et toute une foule de blancs et de chrétiens indigènes. « Vous avez des nouvelles, colonel ?» Le professeur Mercer prit le devant. « C'est ce que le colonel Dressler était en train de me dire. Tout va bien. La colonne a fait halte, mais elle sera là demain de bonne heure. Il n'y a plus de danger. » Dans le groupe qui gardissait le seuil, les applaudissements éclatèrent. On riait, on se serrait les mains. Mais supposez, cependant, qu'on nous attaque avant demain matin, s'écria Ryerson avec impétuosité. Il faut que les autres soient fiefs imbéciles pour ne pas pousser plus avant. Tant de fainéants. Il veut jusqu'au dernier passer devant une cour martiale. Mais tout va bien. L'ennemi a certainement reçu un coup. On peut le voir ramener des centaines de blessés par-dessus la colline. Il doit avoir subi de grosses pertes, mais n'attaquera pas avant le matin. Non, certainement, confirma le colonel. Il n'attaquera pas avant le matin. Tout de même, regagnez vos postes. Il ne faut pas que nous démissionnions sur ce point. Il quitta la chambre avec les autres. Mais en sortant, il jeta derrière lui un regard et ses yeux, une seconde, rencontrèrent ceux du vieux professeur. « Je remets leur sang entre vos mains, » disait-il clairement. Et le professeur répondit par un triste sourire. L'après-midi se passa tout entier sans que les boxeurs fissent leur dernière attaque. Pour le colonel Dressler, cette inaction peu habituelle signifiait qu'ils rassemblaient leurs forces et se concentraient en vue de l'inévitable et décisif assaut. Au contraire, pour le reste de la garnison, le siège était fini, les pertes saisies par l'ennemi le réduisait à l'impuissance. Aussi, l'heure du dîner venue, se rangea-t-il gaiement et bruyamment autour de la table. On déboucha les trois flacons de Lacryma Christi et on ouvrit le fameux baril de caviar. C'était un grand baril et qui ne se trouva pas vide quand chacun eut reçu pour sa part une cuillère pleine. Ryerson, en sa qualité d'épicurien, eut droit à double ration. Il becquetait le caviar à la façon d'un oiseau vorace. Ainsi, il en reprit. Le professeur s'en attribua une large cuillerée. Le colonel Dreiser, qui l'observait de près, fit de même. Les dames mangèrent copieusement, à l'exception de la jolie Miss Patterson, qui en détestait le goût acré et salé, malgré l'aimable insistance du professeur. À peine toucha-t-elle un coin de son assiette. « Mon petit régal n'a pas la chance de vous plaire, lui dit-il. C'est un désappointement pour moi, qui réservait cela dans l'espoir de vous être agréable. Je vous en prie, mangez de mon caviar. »« Mais je n'ai jamais apprécié le caviar, répondit-elle. Cela viendra peut-être avec le temps. » Mais il faut commencer pour ne pas entreprendre tout de suite l'éducation de vos goûts, puisque je vous le demande. Le visage charmant de la jeune fille s'illumina d'un radieux et petit sourire. Que d'empressement! Je ne vous savais pas si galant, professeur Merdel. Mais si je ne mange pas de votre caviar, je ne vous en suis pas moins reconnaissante. « Mais c'est folie que nous n'avons pas mangé !» s'écria le professeur. Si vivement que le sourire s'éteignit sur le visage de la jeune fille, et que les yeux dont elle la regardait réfléchirent leur gravité dans ses yeux à elle. « Je vous dis que c'est folie de ne pas manger ce soir !»« Mais pourquoi ? Pourquoi » interrogea-t-elle. « Parce que vous en avez dans votre assiette !» et que c'est un péché de le laisser se perdre. « Là, là, là !» s'interposa résolument Mrs. Patterson. « Ne la persécutez pas davantage. Je vois bien qu'elle n'aime pas cela. Il n'y aura rien de perdu. » Et avec la lame de son couteau, elle fit passer le caviar de l'assiette de Miss Jency dans la sienne. « Comme cela, il n'y aura pas de gaspillage. Allez, remettez-vous, professeur. » Mais le professeur ne semblait pas se remettre. À voir l'agitation de son visage, on eût dit un homme en face d'un obstacle inattendu et formidable. Il se perdait dans ses pensées. Et la conversation bourdonnait joyeuse. Tous avaient 1000 projets d'avenir. « Oh non, 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 il n'y a pas de congé pour moi, » disait le père Spierre. « Nous autres prêtres, nous ne connaissons pas les congés. À présent que voilà sur place la mission et l'école, je m'en vais les laisser passer au père Ardet et passer à l'ouest vers d'autres. « Vous partez ?» s'écria M. Patterson. « Vous voulez pas dire que... Vous quittez Chaux ? » Le père Pierre secoua d'un air de reproche espiègle sa tête vénérable. C'est mal à vous d'en paraître aussi ravi, Miss Patterson. Mon Dieu, nos vues sans doute sont différentes, dit le presbytérien, mais nous n'avons contre vous aucun sentiment personnel. Père Pierre, d'ailleurs, comment un homme instruit et raisonnable peut-il bien à cette heure de l'histoire du monde apprendre à des malheureux païens encore plongés dans les ténèbres que... Un murmure général de protestation lui rendra sa théologie dans la gorge. « Et vous-même, monsieur Patterson, qu'allez-vous faire ?» demanda quelqu'un. « Oh bien... Je vais aller passer 3 mois à Édimbourg à l'occasion de l'Assemblée annuelle. C'est vous, Mary, qui devez être heureuse. Je pense de courir un peu les boutiques dans Prince Street. Et vous, Jessie, vous verrez des personnes de votre âge. Et puis nous rentrerons à l'automne, quand vous aurez un peu reposé vos nerfs. Oh, nous en avons tous besoin, dit Miss Sinclair, la garde malade. Cette longue tension m'éprouve de plus étrange manière. J'ai en ce moment un tel bourdonnement dans les oreilles. Dieu, c'est drôle, cria Amnissi. Il m'arrive la même chose, un bourdonnement absurde qui monte et qui descend comme si un vol de mouche ivre, essayait le registre. Oh, vous avez raison. Ce doit être un effet de tension nerveuse. Oh, pour ma part, je retourne à Pékin. Je compte bien y trouver une promotion à la suite de cette affaire. Et j'y jouerai quelques bonnes parties de polo. C'est le plus agréable divertissement que je connaisse. Et vous, Elsan? Bon, je ne sais pas. Je n'ai guère eu le temps d'y penser. J'ai envie d'un bon congé, avec un soleil et de la joie, pour nous faire oublier tout ça. Il fallait voir mes lettres dans ma chambre, c'était comique. Et la situation semblant si désespérée mercredi soir que je vais régler mes affaires et écrire à tous mes amis. Je ne sais pas bien comment les lettres seraient parvenues à leur adresse, mais je m'en remettais à la chance. Je garderai probablement ces papiers en souvenir. Ils me rappelleront toujours à quel point nous l'avons tous échappé belle. Oui, je les garderai à votre place, dit Dressler. Il avait dans sa voix un accent si profond, si solennel, que tous les yeux se tournèrent vers lui. « Quoi donc, colonel ?» dit Lainsley. « Vous semblez triste, tout triste ce soir. »« Non, 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 je suis très content. »« À la bonne heure, car voici le triomphe. »« Nous serions à jamais débiteurs pour la science et le talent dont vous avez fait preuve. » Oh, je crois que sans vous, nous n'aurions pas tenu. Mesdames et messieurs, je vous invite à voir la santé du colonel Dressler de l'armée impériale allemande. Erlieben Hoch. Et tous, le verre en main, se dressèrent en l'honneur du colonel soldat et s'inclinèrent avec des sourires. Et il rougit de fierté professionnelle. « Oh, j'ai toujours gardé mes livres avec moi, dit-il. Je n'ai rien oublié. Je ne crois pas qu'on puisse faire davantage. Si les choses avaient mal tourné, si nous avions succombé, vous m'auriez, j'en suis sûr, déchargé de toute responsabilité comme de tout blâme. » Il regardait anxieusement autour de lui. « Colonel Dressler, prononça le ministre écossais, je me fais l'interprète de tous, ici, en vous assurant. Mais Dieu vous garde, s'interrompit-il. Est-ce que M. Elson serait malade ?» Penchant la tête sur ses bras repliés, Rainson dormait d'un sommeil paisible. « Oh, ne faites pas attention, dit vivement le professeur. Nous sommes tous en ce moment sous le coup d'une réaction et exposés à des crises de faiblesse. Ce n'est que dans la nuit que nous sentirons revenir un peu. « Ah, je vais sûrement imiter son exemple, » dit Mrs. Patterson. « Je ne crois pas savoir jamais éprouver un plus grand besoin de dormir. J'ai peine à tenir de toute droite. » Elle se pelotonna contre le fond de son siège et ferma les yeux. « Voilà bien la première fois que pareille chose lui arrive !» s'écria son mari Patterson en riant de bon cœur. « S'endormir sur son dîner ? Que va-t-elle penser d'elle-même quand nous lui aurons dit la chose ? Oh, d'ailleurs, je peux l'excuser ce soir, ceux qui s'endorment, car j'ai idée que je ne vais pas tarder à me retirer. » Ainsi, il est très excité, bavardait sans trêve. Il se leva de nouveau, son verre à la main. Nous devrions boire tous ensemble et chanter « Auld Lang Syne », proféra-t-il en promenant son sourire à la ronde. Depuis une semaine, nous ramons tous sur le même bateau. Nous avons appris à nous estimer les uns les autres, et chacun pour notre part à estimer le pays des autres. Vous, le colonel pour l'Allemagne, le père Pierre pour la France, le professeur pour l'Amérique, pour l'Angleterre, Rayson et moi. Et voici les dames, que Dieu bénisse. Nous avons, durant tout le siège, trouvé auprès d'elles des anges de compassion et de miséricorde. Nous devrions boire à la santé des dames. Elles nous ont donné l'admirable exemple du charme dans le courage, de la patience, de la force d'âme, Oh, par Saint-Georges, mais regardez donc, colonel, endormi lui aussi. Oh, ne résiste pas à cette température infernale. Mais son verre alla s'écraser sur la table. Il tomba lui-même à la renverse, en murmurant des mots confus. Miss Sinclair, là, par le garde-malade, avec son côté, elle avait succombé et en s'inclinait, pareil à un lys brisé, en travers de sa chaise. Mr. Patterson, regardant autour de lui, se leva et passant une main sur son front brûlant, « C'est pas naturel, Jessie !» s'écria-t-il. « Pourquoi dorment-ils tous, là ? Et tenez, voilà le père Pierre, parti comme les autres. Jessie, votre main est froide. Est-ce le sommeil ? Est-ce la mort ? Ouvrez les ténèbres. Au secours, au secours !» Il s'élança, chancelant vers la fenêtre. Mais à mi-chemin, il eut un vertige. Ses genoux fléchirent et il s'abattit la tête en avant. La jeune fille avait bondi. Elle regarda avec des yeux d'épouvante son père étendu devant elle, entouré d'un cercle de silence. « Professeur Miller, qu'y a-t-il donc ?» ajouta-t-elle. « Oh mon Dieu ! Mais ils meurent, mais ils sont morts !» Le vieillard se mit debout par un suprême effort de sa volonté, car déjà il sentait s'épaissir autour de lui les ténèbres. « Ma chère enfant, » dit-il d'une voix qui hachait les paroles, « nous voulions vous épargner cette épreuve. Vous n'auriez souffert ni d'esprit ni de corps. Oui, c'était du cyanure. Je l'avais mis dans le caviar. Mais vous avez refusé. Oh, juste ciel !» Un sursaut l'avait rejeté en arrière, les pupilles dilatées. « Oh, monstre ! Monstre, vous les avez empoisonnés !»« Non, je les ai sauvés. Vous ne connaissez pas les Chinois. Ils sont atroces. Dans une heure, nous tombions tous entre leurs mains. Prenez cela, mon enfant. Prenez cela. » Tandis qu'il parlait, une brusque fusillade éclata sous les fenêtres même de la chambre. « Écoutez, les voilà. Vite, mon enfant, vite. Vous pouvez leur échapper encore. » Ces mots ne frappaient plus que des oreilles sourdes. La jeune fille était retombée inanimée sur son siège. Dressée, le vieillard écouta un instant le bruit du feu au dehors. « Mais quoi donc? Qu'est-ce que cela? Devenait-il fou? Subirait-il l'effet du toxique? Sûrement. C'était là des acclamations empoisonnées européennes. » Ah, oui, des ordres brefs retentissaient en anglais. Il entendait le cri de marine. Il ne pouvait pas douter. Les secours venaient en arriver, enfin, par miracle. Il tendit ses longs bras avec désespoir. Oh, que je fais? Oh, que je fais, Seigneur? S'écria-t-il. Ce fut le commodore Winham en personne qui, après une attaque en fait désespérée et victorieuse, s'élança le premier dans la terrible salle à manger. Un groupe de convives se rangeait, livide et muet, autour de la table. Une jeune fille gémissait et remuait faiblement. Pas autre signe de vie dans la pièce. Pourtant, il y avait là quelque chose qui, chez qui, assez d'énergie subsistait pour l'accomplissement d'un devoir suprême. Cloué de stupeur sur le seuil, le commodore vit se soulever lentement au-dessous de la table une tête grise. La longue personne du professeur oscillait un instant sur ses jambes. « Prenez garde au caviar, ne touchez pas au caviar !» râla le vieil entomologiste, écroulant sur lui-même. Il ferma le cercle de la mort.